Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Arnaud Pontus.
Bonjour et bienvenue dans Appel sur l'actualité, votre forum mondial quotidien pour débattre. Dans 30 minutes, nous allons parler de la transition politique au Mali. Après le coup d'état militaire de mardi dernier, comment organiser le retour des civils au pouvoir? Des émissaires ouest-africains viennent de passer 3 jours à Bamako, 3 jours de discussion, mais au final pas d'accord. La junte avait promis une transition politique, elle est toujours d'actualité, mais sa durée et sa forme font débat. Lors des discussions, il a été question de 3 ans, puis 2 ans. C'est trop, a dit le chef de la diplomatie du Niger. Puis il y a le sort d'Ibeka, le président renversé. La CDAO ne réclame plus vraiment son rétablissement. Il pourra quitter le pays quand il veut pour des examens médicaux. Alors que pensez-vous de ces premières pistes? Êtes-vous satisfait de la tournure que prennent les événements? Avez-vous confiance dans le Conseil national pour le salut du peuple? Vous êtes à Bamako, à Kai, à Mopti, à Gao ou ailleurs? Votre avis nous intéresse. Le standard est ouvert. 33 9 693 693 70. Mais d'abord, vos questions sur l'actualité, et ce mardi on parle ensemble de la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin, des tensions en Méditerranée entre Grèce et Turquie, de la hausse des traversées de la Manche par des migrants, et de la Ligue des champions de football après la défaite de qui vous savez. Pour commencer, nous sommes avec Emery, qui nous appelle de Kinshasa en République démocratique du Congo. Bonjour Emery. Emery, m'entendez-vous? Bonjour. Nous n'entendons pas Emery. Emery, est-ce que vous êtes là? Vous aviez des questions concernant la fermeture des frontières entre le Nigeria et le Bénin. Alors, cela fait 1 an que le Nigeria a fermé sa frontière avec le Bénin pour lutter contre la contrebande. Et Emery nous demandait si cette fermeture de la frontière a eu les effets escomptés par les autorités nigérianes. Pour répondre à Emery, nous sommes avec Emmanuel Iga, docteur en géographie économique, consultant en développement. Bonjour à vous.
Bonjour.
Ah, c'est Emery qui est là peut-être.
Emmanuel
Iga, je ne savais pas, je ne savais plus qui me parlait. Bonjour à vous. Bienvenue à vous sur l'antenne. Je rappelle que depuis le 20 août 2019, le Nigeria a fermé ses frontières terrestres. Les autorités ont expliqué vouloir ainsi mettre fin à la contrebande, notamment de riz ou de poulet surgelé en provenance du Bénin. Emery nous demande si ça fonctionne.
Oui, alors c'est une très bonne question. À une année presque jour pour jour de cette fermeture, personne n'aurait pensé que cela durerait aussi longtemps. Le chef de la douane nigériane persiste et signe dans ses différents rapports que l'impact de cette mesure n'est que bénéfique pour l'économie nigériane, notamment par l'augmentation sensible des recettes douanières, qui se sont vues doubler, voire tripler dans certaines périodes. Ceci étant du fait que les bateaux de transport de marchandises qui livraient auparavant leur chargement au port béninois de Cotonou et sont aujourd'hui obligés de les débarquer au port de Lagos.
Donc ça veut dire qu'il y a des résultats.
Pour la douane, c'est une très bonne chose.
Oui, pour la douane, ça fonctionne. La contrebande, est-ce qu'elle se poursuit malgré tout?
La contrebande, effectivement, elle n'est que peut-être dans le meilleur des cas, diminuée.
D'accord.
Il est impossible d'éliminer totalement la contrebande dans des pays africains avec des frontières qui sont très mal gardées, mal surveillées.
Oui, puis il y a 770 kilomètres de frontières entre les deux pays, donc c'est bien compliqué de les rendre définitivement fermées. Hein.
Voilà. La frontière entre le Niger et le Bénin, il y a à peu près plus de 1000 kilomètres à surveiller avec 2000 points de passage.
Oui.
Donc c'est extrêmement compliqué.
Extrêmement compliqué, oui.
Alors, donc l'autre chose que les autorités nigériennes disent, c'est que grâce à cette fermeture, la production locale du riz, des produits laitiers, de volaille, connaît un boom. Et leurs ventes, donc les agriculteurs nigériens sont très contents. Évidemment, on nous parle aussi de la baisse importante de la criminalité transfrontalière.
Bon, donc d'après les autorités nigérianes,
très très populaire oui. au sein de la population nigérienne.
Mesure populaire.
Malgré l'inflation oui. Des produits de première nécessité d'ailleurs. Qui avait été provoqué dès le départ de cette mesure.
Alors Emmanuel Higa, vous restez avec nous parce que Emery, que nous avons retrouvé, avait une deuxième question à vous poser. Alors je vous salue Emery.
Bonjour.
Bonjour à vous.
Alors, il y a des négociations qui sont menées entre les deux pays et ils pensent-ils à une réouverture des frontières? Et cela est-il envisageable?
Oui. Emmanuel Higa, est-ce que les négociations peuvent aboutir à une réouverture des frontières un an après leur fermeture?
Oui, c'est très bien de retrouver Emery. Ces questions sont très pertinentes. Évidemment, dès le premier jour, je pense que les mécanismes de négociation se sont mis en branle. On ne peut pas laisser une frontière entre le pays qui est le pays moteur de la communauté économique des États de l'Afrique occidentale, la CEDEAO. Avec son voisin, disons, avec ouais. lequel il a le plus grand nombre d'échanges commerciaux économiques, le Bénin, on ne peut pas laisser perdurer ça sans négociation. Donc les négociations sont en cours. Le problème, c'est que le Nigeria s'accaboute sur sa politique d'autosuffisance dans la production de beaucoup de denrées alimentaires, il craint que la réouverture des frontières pourrait à nouveau permettre l'arrivée de produits importés. Donc,
oui. donc on n'y est pas encore.
Ça, oui, voilà, donc ça coince un peu de ce côté-là.
Oui.
Je sais qu'il y a même eu une réunion il n'y a pas longtemps au Burkina Faso donc pour essayer de débloquer cette situation. Ce qui se passe actuellement, c'est que depuis le début de l'année, oui. la pandémie du Covid semble avoir ralenti l'élan de ces négociations.
Le rythme des négociations,
donc,
d'accord.
Voilà, donc il faut espérer que dans les semaines et les mois qui viennent, cela pourra repartir de plus belle.
Oui, merci.
Et qu'on puisse trouver donc une issue plus rapide.
Merci Emmanuel Higa, merci de vos réponses. Je rappelle que vous êtes docteur en géographie économique, consultant en développement. Vos réponses à Emery, qui était à Kinshasa. Bonne journée à vous Emery.
Bonne journée.
Et merci d'avoir été avec nous. On est maintenant avec Idriss. Bonjour Idriss.
Bonjour Arnaud Pontus, bonjour à tous les auditeurs de RFI.
Vous nous appelez d'Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous avez des questions à propos des tensions en Méditerranée, tensions entre la Turquie et la Grèce. Idriss, on vous écoute.
Exactement. Arnaud Pontus, les tensions entre la Turquie et la Grèce ne cessent de grandir autour de la situation en mer Méditerranée orientale. Les deux s'accusent mutuellement d'être responsables d'escalade. Alors ma première question est la suivante. Pourquoi la Turquie et la Grèce se font face et comment expliquer l'escalade récente?
Alors, pour répondre à votre question, Anissa El-Jabri du service international de RFI m'a rejoint. Bonjour Anissa.
Bonjour.
Que se passe-t-il donc en Méditerranée orientale?
Bon, il faut se rappeler que ça fait très longtemps qu'il y a des tensions entre la Turquie et la Grèce et que juste avant qu'on revienne sur ce dossier des hydrocarbures, vous vous souvenez, juste avant en fait que l'Europe ne devienne l'épicentre de la pandémie et que tout le monde se confine, on était déjà à un niveau de tension extrêmement élevé. Ça concernait la question des migrants pour faire en quelque sorte pression sur l'Union européenne. Le président Erdogan les avait quasiment fait accompagner jusqu'à la frontière turco-grecque. Les Grecs avaient envoyé une police qui utilisait, disait-elle, des balles en caoutchouc. Il y avait tout de même eu un mort et on avait déjà eu des réunions d'urgence entre les 27. Donc là, tout le monde s'était demandé si ça allait reprendre sur ce sujet-là au moment où les choses se détendent un petit peu après ce qui était estimé comme une fin de première vague. Eh bien non, sur ces tensions antérieures se greffe ce nouveau sujet qui concerne les recherches d'hydrocarbures en Méditerranée. Alors ça fait des années qu'on sait déjà que en Méditerranée, singulièrement en Méditerranée orientale, il y a des gisements gaziers. On en trouve régulièrement. Et le président Erdogan, qui en plus est dans un pays qui a dirige un pays qui a des difficultés économiques, veut et se dit que c'est son droit plein et entier
d'aller prospecter
sur place. Donc il a envoyé, c'était il y a très exactement deux semaines,
Le 10 août, oui.
Le lundi 10 août, il a envoyé un navire de recherche et un navire qui était quand même escorté par des bâtiments militaires dans le sud-est de la mer Égée. Donc c'est très exactement là où la Grèce juge qu'on est dans ses eaux territoriales. Donc la Grèce a réagi très très fort, c'est un classique, a jugé que ses frontières maritimes étaient violées, jugé que c'était une provocation, qu'elle ne devait pas rester sans réponse, et elle a appelé l'Union européenne à l'aide. Alors derrière ce sujet économique, il faut aussi quand même se rappeler que le président Erdogan développe depuis longtemps une théorie assez large qu'on appelle la théorie de la patrie bleue, où il juge que la Turquie a des ambitions très légitimes à porter sur l'ensemble de la zone de la Méditerranée.
Alors Idriss a une autre question pour vous, Anissa. On vous écoute, Idriss.
Alors, Arnaud Pontus, ma deuxième question est la suivante. Comment l'Union européenne se positionne-t-elle dans ces disputes entre ces deux pays?
Anissa, comment l'Europe gère tout ça?
Eh ben, l'Union européenne, en fait, le mot est bien là, et c'est bien là que le bas blesse. Alors oui, il y a une position des 27 au niveau des ministres des Affaires étrangères. De toute façon, on est un membre qui demande de l'aide. C'est difficile de faire autrement. Donc, il y a eu un soutien de la Grèce, un appel au dialogue. Mais en fait, le vrai problème, tout le monde le sait, il est entre Paris et Berlin. La semaine dernière, à Brégançon, Angela Merkel, Emmanuel Macron nous ont expliqué que notamment sur la Grèce, tous les différents étaient aplanis. On sait qu'en réalité, il n'y a pas du tout les mêmes positions. D'ailleurs, ça a été présenté un petit peu comme complémentaire. La France continue à juger, et c'est ce qu'elle a montré le 13 août, qu'il faut répondre à ce qui est jugé des provocations d'Erdogan. Donc la France avait envoyé deux bâtiments militaires, deux rafales. L'Allemagne continue à juger que ses réponses sont beaucoup trop musclées, que ce qui compte après tout, et c'est ce que fait Angela Merkel, c'est la diplomatie. Angela Merkel, elle parle une à deux fois par mois au président Erdogan. Le contenu de ses conversations, personne ne les connaît. Donc là, l'Allemagne a commencé, c'est aujourd'hui, à jouer d'ailleurs un rôle tout plus particulier, puisqu'elle est à la tête de l'Union européenne. Le ministre des Affaires étrangères allemand, aujourd'hui, se rend à Athènes. Il va demain à Ankara. L'idée, c'est de lancer une médiation. On va voir aussi un peu si des deux méthodes dites complémentaires, laquelle est la plus efficace.
Merci à vous, Anissa El Jabri. Et merci à vous, Idriss. Bonne journée à Abidjan.
Merci à vous.
Merci de votre fidélité à Appel sur l'actualité. Pour la question suivante, on appelle le Cameroun, Yaoundé, où nous attend Innocent. Bonjour Innocent.
Oui, bonjour Arnaud.
Bienvenue sur RFI. Vous nous posez et vous posez des questions concernant la traversée de la Manche entre la France et l'Angleterre par des clandestins. C'est d'ailleurs un sujet qui fait la une du journal français Libération ce matin. Le nombre des traversées a nettement augmenté depuis quelques mois. Alors que voulez-vous savoir, Innocent?
Exactement. Plus de 4500 migrants sont arrivés au Royaume-Uni par la Manche en 7 mois. Un nombre qui a doublé par rapport à l'année 2019. Alors, j'ai des questions à vous poser.
Oui. On vous écoute.
Pourquoi plus de personnes tentent la traversée en 2020? Y a-t-il un lien avec la pandémie de Covid-19?
Alors, pour répondre à cette première série de questions, nous sommes en ligne avec Mathieu Tardis, chercheur au Centre d'immigration et citoyenneté à l'IFRI, Institut français des relations internationales. Bonjour Mathieu Tardis.
Bonjour.
Innocent nous demande d'abord pourquoi on assiste à cette poussée du nombre de traversées depuis le début de l'année.
Alors, je pense pas qu'il y ait un lien direct, ou en tout cas, s'il y a un lien, il est marginal avec le Covid-19, parce que votre auditeur l'a dit aussi, en 2019, il y avait déjà beaucoup de traversées, tentatives de traversées, faut le préciser, c'est pas forcément 4500 personnes qui sont arrivées au Royaume-Uni, c'est tentatives de traversées. Donc, ce nombre avait déjà augmenté en 2019, était quatre fois plus important qu'en 2018, donc on s'inscrit dans une tendance.
Oui, une progression successive, oui, oui.
Voilà. Alors, pourquoi, à mon sens, il y a peut-être plusieurs facteurs. C'est le premier facteur est certainement le renforcement de la sécurité au port de Calais et au tunnel sous la Manche. Particulièrement après un accord qu'il y a eu encore entre la France et le Royaume-Uni en 2018, dans lequel le Royaume-Uni accorde 50 millions d'euros à la France pour renforcer cette sécurité, puisque la plupart des traversées se font aujourd'hui par des migrants qui tentent de rentrer dans des camions et qui prennent ensuite le ferry ou le tunnel. Et donc il y a eu un renforcement de la sécurité, donc les migrants et leurs passeurs finalement ont cherché des alternatives. On pourrait presque se demander pourquoi ils n'ont pas trouvé la voie maritime plus tôt, puisque ça fait maintenant aujourd'hui quasiment 20-30 ans qu'il y a des migrants qui sont à Calais pour tenter la traversée, parce que c'est aussi une des voies maritimes les plus dangereuses du monde, à cause du trafic qui est extrêmement important et des trafics, des des trafics de cargo et donc qui rend la traversée extrêmement dangereuse parce que les migrants utilisent des bateaux à pneumatiques pour faire cette traversée. Un autre facteur aussi de cette augmentation est le fait qu'il y a plus de voies légales pour accéder au Royaume-Uni aujourd'hui. Les Britanniques avaient mis en place un petit dispositif qui permettait à des mineurs non accompagnés de rejoindre le Royaume-Uni légalement, des mineurs qui se trouvaient sur le littoral du nord de la France. Il y en a quelques centaines qui ont pu rejoindre le Royaume-Uni. Et puis là, il y a peut-être un lien direct avec le Covid, c'est que d'autres transferts pour de migrants qui avaient de la famille au Royaume-Uni ont été suspendus pendant le Covid. Et donc, il y avait plus de moyens d'arriver légalement sur le territoire britannique. Et
d'où peut-être cette poussée. Oui, rapidement, si vous voulez bien, Mathieu Tardif.
Un troisième facteur est certainement la dégradation des conditions de vie des migrants en France, sur le littoral. Depuis 2017, la France a repris une politique très coercitive, voire répressive des migrants sur le territoire calaisien et tout le littoral du Nord. Les migrants ont quasiment plus accès à des points d'eau, aux douches. C'est très difficile ensuite également d'accéder à la distribution alimentaire des associations, parce qu'il faut qu'ils marchent pendant une heure, parce qu'aujourd'hui, ils sont plutôt dispersés dans les bois autour de Calais et non pas au sein de la ville de Calais.
Merci Mathieu Tardis et merci à Innocent qui nous a posé cette question du Cameroun, de Yaoundé précisément. Mathieu Tardis, chercheur au Centre Migration et Citoyenneté de l'IFRI, l'Institut Français des Relations Internationales. On va terminer cette première partie d'appel sur l'actualité en parlant football avec Kalilou. Bonjour Kalilou.
Bonjour Arnaud.
Vous nous appelez de Cotonou au Bénin pour quelques questions autour de la finale de la Ligue des Champions de foot. Et Thomas de Saint-Léger est à mes côtés pour vous répondre. On vous écoute Kalilou.
Oui, le Paris Saint-Germain s'est incliné en finale de la Ligue des Champions face au Bayern 1-0. Alors, qu'est-ce qui a manqué au PSG pour gagner ce match, puisque le Bayern n'a jamais été aussi inquiété lors de cette compétition?
Alors Thomas, qu'est-ce qui leur a manqué aux Parisiens?
Pas grand-chose, et à la fois un peu de tout, du vice, oui. Du caractère, de l'expérience, mais surtout, c'est la base, Arnaud, de la justesse technique, du talent. Le PSG de dimanche soir est un pari sans génie, en tout cas ils sont restés dans leur lampe, invisibles, inefficaces, les Mbappé, Neymar, Di Maria. Et le problème, c'est que l'équipe est encore trop dépendante des coups d'éclat de ces trois joueurs. Quand ils ne sont pas au rendez-vous, les lacunes deviennent d'un coup plus évidentes, et on voit que certains titulaires ne sont pas encore au niveau d'une finale, que les remplaçants n'apportent pas grand-chose. Bref, que Paris doit encore investir pour bâtir le 11 qui lui permettra d'aller au bout, bâtir intelligemment, sans forcément faire sauter la banque pour un seul transfert, mais en ciblant les vrais besoins, en repérant les bonnes affaires. C'est dans cette logique que Leonardo, le directeur sportif, travaille depuis son retour au club. Mmh. C'est avec cette méthode que le Bayern a petit à petit construit l'équipe qui aujourd'hui domine l'Europe pour rassurer les supporters parisiens. On rappellera que 2 ans avant le sacre de 1993, l'Olympique de Marseille avait échoué aussi en finale de la Ligue des Champions 91 face à l'Étoile Rouge de Belgrade.
Donc il faut peut-être attendre 2 ans hein, pour le PSG. Kalilou, vous aviez une autre question.
Oui, quel est l'avenir de Neymar et Mbappé dans l'effectif parisien après cette défaite? Peut-on s'attendre à d'autres changements au sein de l'équipe?
Alors, que vont-ils devenir, Mbappé et Neymar?
Kalilou n'est pas seul à se poser cette question, mais je pense que ce qui s'est passé à Lisbonne est un bon indice de ce qui peut arriver dans les semaines à venir pour ces deux joueurs. On a vu deux stars se mettre au service du collectif, impliqués à 100% dans ce projet, dans ce groupe, et c'est pas juste pour la formule, ce groupe qui vit bien, semble-t-il, depuis Dortmund, le huitième de finale, il y a une vraie dynamique, ce serait étonnant de voir Neymar ou Mbappé quitter le club maintenant, même si on entend ça et là que Paris pourrait viser une autre star et donc peut-être laisser filer l'un de ces deux joyaux. Dans ce cas-là, on pense plutôt à Neymar, dont le retour en Espagne est un éternel serpent de mer et qui a un contrat courant jusqu'en juin 2022. Autant dire demain, selon plusieurs indiscrétions, une réunion a d'ailleurs eu lieu à Lisbonne entre les dirigeants du PSG et les représentants du Brésilien pour évoquer son futur au club. Sur le plan des arrivées en dehors du transfert définitif de Mauro Icardi, beaucoup de rumeurs, mais rien de très concret pour l'instant, Arnaud.
Merci à vous, Thomas de Saint-Léger. Merci, Kalilou, on a répondu à vos questions.
Oui, merci beaucoup.
Merci d'avoir été avec nous ce matin. Merci à tous nos auditeurs qui nous envoient des questions chaque jour pour qu'on les aide à décrypter et expliquer l'actualité. Vous restez avec nous. Appel sur l'actualité se poursuit dans 10 minutes. Le débat du jour autour de la transition au Mali. À tout de suite.